Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses, mais toujours dans une ambiance festive, n'est-ce pas Eva?
C'est très festif, hein. Oui. Tout le monde est bourré. Hein.
Oui, non, ne révélez pas nos petits secrets non plus, c'est notre cuisine interne, ça Eva. Et puis parfois on est sobre, ça nous arrive aussi. Non, vous savez bien qu'on en rajoute, qu'on plaisante, on n'est pas si bête que ça quand même, hein, Eva.
J'avais compris qu'il y avait quelqu'un dans Chewbacca.
Voilà, c'est QFD, elle avait compris. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin fêtera les 25 ans du tunnel sous la Manche, une saga franco-britannique.
Merci d'écouter Europe 1 en ce lundi 6 mai. Et excellent réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 6 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Le printemps va-t-il finir par arriver? Les températures sont largement en dessous des normales de saison. Il a même beaucoup neigé ce week-end, notamment dans les Alpes. L'alerte enlèvement déclenchée hier soir pendant quelques heures a permis de retrouver un petit garçon de 2 ans, enlevé à Marseille. Un homme a été placé en garde à vue. Et puis vive inquiétude au Bénin. 2 touristes français ont sans doute été enlevés. Leur guide a été retrouvé criblé de balles.
Europe 1.
Les agriculteurs, les viticulteurs sur le pont cette nuit pour protéger leur culture. Encore des températures négatives ce matin par endroit et un temps froid qui n'en finit pas. Il a même beaucoup neigé ce week-end dans le massif des Bauges au-dessus de Chambéry. Le reportage de Rémi Pierre.
Dans les derniers lacets qui montent vers la station du Revard, à 1400 mètres d'altitude, c'est un paysage d'hiver qui accueille les promeneurs ce dimanche. Une épaisse couche de neige au sol, sur les sapins, mais aussi sur la route. Une surprise même pour Barbara qui tient une boutique de souvenirs ici depuis 15 ans.
Hier c'était noir, et puis ce matin c'était la surprise en arrivant. On s'est retrouvé avec un bon 5-10 cm de neige, quoi. En plus c'est tout gelé, donc on se croirait en saison d'hiver, quoi.
Et c'est cette neige fraîche qui a décidé Magdalena et ses amis lyonnais à changer de programme pour la journée.
Oui, on devait aller en moto et on a fini la neige, ça change.
Anorak, chaussures, gants, comme en plein hiver?
Tout à fait, il manque plus que les raquettes et les skis.
Fred, lui, a décidé de monter spécialement pour prendre des photos.
Ça fait des photos magnifiques, avec la neige en haut, le soleil en bas. Bon, c'est pas comme ça les autres années à cette époque, c'est un petit peu surprenant quand même.
Mais encore plus que la neige, ce sont les températures glaciales qui surprennent Sophie et son mari Jean-François.
Moins 3 dans la voiture, il y a moins 3. Mais en fait, c'est sympa, c'est irréel, c'est imprévu, c'est très bien.
On est plutôt entre 15 et 18 en général. C'est vrai que là, cette année, on est étonné, hein. C'est vraiment exceptionnel.
Et si le soleil doit remplacer la neige aujourd'hui, le mercure, lui, va rester encore négatif. Au Revard, Rémi Pierre, Europe.
L'alerte enlèvement a encore une fois prouvé son efficacité. Un petit garçon de 2 ans enlevé hier après-midi à Marseille a été retrouvé sain et sauf quelques heures plus tard dans un hôtel de Valence avec son ravisseur. Le petit Osnachi va bien, selon le procureur de la République. L'auteur du rap qui a des antécédents judiciaires a été placé en garde à vue. Le bilan s'est encore alourdi en Russie. 41 personnes sont mortes hier dans l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot. L'appareil s'est entièrement embrasé avec 78 personnes à bord. Pour une raison encore inconnue, l'avion a été contraint de faire demi-tour quelques minutes après son décollage.
La thèse de l'enlèvement des 2 touristes français au Bénin se précise.
Le corps sans vie de leur guide a été retrouvé samedi dans le parc naturel de la Pendjari, mais Haute-Vernouche, toujours aucune trace des 2 Français. Et c'est donc bien la piste de l'enlèvement qui est privilégiée.
Oui, tout d'abord parce que la dépouille du guide, très abîmée, a été retrouvée seule ce samedi, d'après le médecin légiste. Sa famille n'a pu l'identifier que grâce au pantalon qu'il portait. Ensuite, parce qu'un véhicule calciné a été retrouvé de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso, même modèle que celui loué par les 2 touristes français, mais aucune trace de ses occupants. 2 enseignants en vacances au Bénin depuis une dizaine de jours, qui devaient rentrer hier en France. Alors actuellement, des centaines de rangers et 2 avions sont à leur recherche dans le parc de la Pendjari, vaste réserve naturelle de 4700 km² qui s'étend sur 3 pays. Le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Jusqu'à présent, et contrairement à ses voisins, le Bénin échappait aux menaces. Mais la zone est fortement déconseillée depuis peu par le Quai d'Orsay à cause d'une recrudescence d'attaques de groupes armés ces derniers mois.
Haute-Vernouche, les leaders palestiniens à Gaza ont accepté cette nuit un cessez-le-feu avec Israël après une escalade de violence ces 2 derniers jours qui a fait au moins 27 morts. Hier soir, Donald Trump a assuré Israël du soutien entier des États-Unis. Emmanuel Macron a lui fermement condamné des tirs de Gaza.
En France, partenaires sociaux, élus locaux et associations reçus à Matignon.
Objectif, trouver des idées le plus rapidement possible pour appliquer concrètement les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Emmanuel Duteil.
C'est une mobilisation collective et tout le monde doit s'y mettre. Ça, c'est le mot d'ordre de Matignon. Côté méthode, on prévient, ce n'est pas un énième Grenelle ou une énième réunion sociale. On va changer de méthode pour être plus efficace, prévient-on dans l'entourage d'Edouard Philippe. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, 5 thèmes ont été arrêtés. Renforcer l'apprentissage, les jobs non pourvus, lever les freins à la reprise d'emploi, accompagner la transformation dans les territoires et enfin l'écologie du quotidien. Pour chaque thème, les participants vont regarder ce qui existe déjà comme dispositif. Ils vont se poser également la question des budgets alloués et puis surtout, qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça aille mieux? Ça va être très pragmatique, hein, comme comment améliorer la garde d'enfants pour ceux qui retrouvent du travail ou comment est-ce possible que les apprentis pensent, alors que ce n'est pas le cas, hein, ne pas avoir le droit à la garantie logement comme tous les étudiants. Côté calendrier, on veut aller très vite à Matignon, état des lieux aujourd'hui. Tout le monde se retrouve en juin pour une application, espère-t-on, en septembre au plus tard.
Emmanuel Dutheil, 3 semaines avant le premier tour des Européennes, Marine Le Pen tenait un meeting hier à Bruxelles. La patronne du Rassemblement National a fait un appel du pied au dirigeant populiste hongrois Viktor Orbán.
Tous ceux qui aujourd'hui se disent, en fait ils avaient raison, et nous allons les rejoindre, ils sont la bienvenue. Nous leur tendons la main, voilà. Parce que même s'ils se sont trompés par le passé, ce qui est important aujourd'hui, c'est de sauver notre continent de toute une série de dangers qui sont bien réels et contre lesquels nous devons en quelque sorte nous réarmer économiquement, mais aussi peut-être psychologiquement. Et si M. Orbán vient, tant mieux. Mais même s'il ne vient pas, le supergroupe, il existera, avec ou sans lui.
Marine Le Pen au micro Europe 1 d'Isabelle Horry.
Ça faisait 9 ans qu'il n'avait rien publié. Brett Easton Ellis est de retour.
L'auteur de Moins que zéro, Les lois de l'attraction ou encore American Psycho revient dans les librairies avec White chez Robert Laffont. Ce n'est pas un roman, mais un pamphlet cette fois, Nicolas Carreau.
On ne se refait pas, Brett Easton Ellis publie un essai mais qui se lit comme un roman. Dans White, l'écrivain observe le monde d'aujourd'hui et il est inquiet. Inquiet pour les arts, notamment dans une société où tout est sujet à controverse. C'est ridicule. Nous vivons dans une société absurde. On ne peut plus soutenir une opinion. Tout le monde est victimisé. Les gens sont devenus tellement fragiles. On doit se comporter comme avec des enfants et faire très attention à ne contrarier personne. C'est mauvais pour tout le monde, mais c'est spécialement mauvais pour les artistes. C'est mauvais pour ceux qui créent, c'est mauvais pour les gens qui sont justement supposés créer de l'art dangereux, sulfureux, qui bouscule les gens et leur fait voir le monde d'une autre manière. Mais aujourd'hui, ils ont trop peur d'offenser les gens.
Les réseaux sociaux, bien sûr, ont contribué à cette situation. Brett Easton Ellis essaye de comprendre. Il observe l'époque et la nouvelle génération connectée, mais il évoque aussi sa carrière, les années 80, American Psycho, son plus grand succès. White est écrit avec humour, ironie et style. Il n'hésite pas à bousculer le politiquement correct, justement. Brett Easton Ellis reste à ce jour l'un des plus grands écrivains américains.
Nicolas Carreau.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et avec l'adolescence qui arrive, il fallait s'y attendre. Elle mue, vous l'avez entendu. Et Céline, beaucoup de messages de votre mari pour nous dire « C'est moi ou il y a vraiment un truc entre toi et ma femme ?» Désolé vieux, mais je me dois d'être honnête avec toi. Tu peux te raconter tout ce que tu veux, essayer de te rassurer, mais quand une femme te dit ces mots-là avec autant de sincérité...
C'est pour ça que je vous aime,
c'est pour ça que je vous aime, c'est pour ça que je vous aime,
c'est pour ça que je vous aime.
C'est
pour ça que je vous aime.
Que ça sent le roussi pour ton couple.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Et soignez-vous bien, Céline. Les petits bonbons au miel. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire, le tunnel sous la Manche à 25 ans. Happy birthday to you, Mr. Tunnel. Fabrice Dalméda revient sur cette saga franco-britannique.
Très bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
J'ai envie de faire un point sur la météo, Céline.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Avec une belle journée, mais froide.
Oui, c'est vrai, le soleil sera quand même présent aujourd'hui. On aura juste un petit peu plus de nuages sur le nord-ouest, de la Normandie au Pays de la Loire, cet après-midi. Puis un ciel un peu plus chargé, toujours cet après-midi, près des frontières du nord, avec là un risque d'averse. Pour les autres, de larges éclaircies, surtout pour la moitié sud, hein, où là, les nuages seront... presque pas présent. Des températures très froides pour la saison. On l'a bien senti ce matin, dégelé un petit peu partout. Une moyenne de 1 à 4 degrés. Ça va grimper cet après-midi, mais on va rester sous les normales de saison. 11 à 16 degrés, c'est la moyenne pour la moitié nord. Ça grimpera quand même jusqu'à 21 degrés dans le sud-est. Et puis on a encore un petit peu de vent. Le Mistral a bien soufflé, surtout hier. Il s'est calmé. Hein. Les vigilances ont été levées. Il soufflera encore en rafale jusqu'à 70 km à l'heure dans la vallée du Rhône.
Merci Céline. Eva Rock, comment se porte ce bon vieux George Clooney?
Eh ben, il se porte
chante très bien Happy Birthday, Georges Clooney, 58 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui.
Mais
oui, non, c'est vrai.
S'il nous entend, il doit sauter au plafond.
Mais non.
Faudrait remettre ta petite bougie.
On vous fait plein de bisous. On espère même passer la soirée avec vous. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez Georges Clooney et chez un homme en général? Est-ce que ses petits cheveux, poivre et sel, vous plaisent? Alors, Daki nous répond sur Twitter avec le hashtag européen. Je ne craque pas pour un homme, mais j'aime bien chez mes copains qu'ils soient drôles et bienveillants. Et pour paraphraser Catherine Lara, ce que je préfère chez un homme, c'est sa femme. Voilà. Et Marie-Claire nous dit ce qui me fait craquer chez un homme, son sourire, sa gentillesse, son humour, cheveux poivre et sel, normal quand on vieillit et c'est bien. Mais je vous laisse Georges, il ne me fait pas craquer. Eh bien, moi, je le garde. Merci beaucoup.
Oui, vous le gardez volontiers.
C'est un très bon cadeau.
Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est un journaliste à la polyvalence admirable qui nous rejoint et j'aimerais l'en remercier officiellement ce matin, car Jérôme Lacroix, ce n'est pas que la revue de presse, le journal et le journal des sports qui arrivent, non, la plus dure de ces missions, la plus épuisante, c'est de, je cite, « subir quotidiennement et devoir applaudir aux jeux de mots foireux de ce con de Noël ». Et c'est vrai que si, comme le disait Victor Hugo, les jeux de mots sont la fiente de l'esprit, alors j'ai un sacré bon transit.
Pas de Marie-Antoinette Catoto.
Elle avait une tendance à perdre la tête.
Qui ça?
Marie-Antoinette.
Ah, j'avoue que je l'avais pas.
Eh oui, vous ne l'aviez pas parce que c'est votre problème, Jérôme, vous n'êtes pas à l'écoute de l'excellence. Allez, journal des sports. Allez, une. La guerre des voisins.
Ce sera chaud jusqu'au bout, la une ce matin du quotidien Le Progrès. Chaud jusqu'au bout entre Lyon et Saint-Étienne. Les rivaux qui se bagarrent à la troisième place de la Ligue 1 de football. Strapontin pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors ce matin, à trois journées de la fin, Lyon 3e, 63 points. Saint-Étienne 4e, 62 points. Les Stéphanois à un point plus proche que jamais parce qu'hier, ils ont gagné 3-2 à Monaco. Alors que les Lyonnais butaient à domicile contre Lille, 2 partout. Le jeune milieu lyonnais Oussem Aouar s'attend à un sprint final endiablé.
Vous savez très bien que le fait que ce soit Saint-Étienne, ça sera un peu plus tendu et qu'il y aurait un peu plus de pression, bien entendu. Mais même si ça avait été une autre équipe, on va faire le maximum car on va essayer de ramener l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions l'année prochaine.
Des propos recueillis par Simon Rubin, les Lillois, eux, ont quasiment assuré la deuxième place, un synonyme de qualification directe pour cette Ligue des Champions. Ils ont ce matin 6 points d'avance sur les Rodaniens.
Et puis finalement, Jérôme, la roue tourne, a tourné, comme il le disait. Franck Ribéry quitte le Bayern Munich, mais il n'arrête pas pour autant sa carrière.
12 saisons en Bavière, à 36 ans, son contrat ne sera pas reconduit. Son avenir pourrait se dessiner du côté des pays du Golfe ou de la Chine. Son passage à Munich, les supporters s'en souviendront, hein, une Ligue des Champions, 8 titres de champion d'Allemagne notamment. Mais, et ça contraste avec son image en France, les Bavarois garderont de lui l'image d'un charmant garçon, nous dit ce matin Gernot Rohr, le plus français des entraîneurs allemands.
Il a appris l'allemand très rapidement, il s'est intégré en Bavière, il a été toujours irréprochable en ce qui concerne sa combativité. Et ça, pour les supporters, ça n'a pas de prix. Et aussi pour les officiels du Bayern, qui ont décidé de lui consacrer un jubilé, ça sera évidemment aussi une raison pour fêter tout ça.
La Ligue des Champions, décidément, coupe à la grimace pour le PSG après les footballeurs. Après les footballeurs, les handballeurs ont été éliminés beaucoup plus tôt que prévu hier, dès les quarts de finale, par les Polonais de Kielce. Les Parisiens devaient l'emporter de 11 points au match retour hier à Coubertin. Ils ont gagné, mais de 9 points seulement, 35-26.
Les joueurs de rugby du Stade français remportent le derby francilien.
Oui, victoire à Nanterre face au Racing 92-27-23 en 24e journée de Top 14. Et puis, il a toujours fui les politiques. Mais aujourd'hui, il sera bien à la Maison-Blanche. Tiger Woods va recevoir des mains de Donald Trump la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, en récompense à sa récente victoire au tournoi majeur d'Augusta après des années difficiles. Le président américain féru de golf.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Dans les colonnes de Sud-Ouest, pardonnez-moi, c'est le titre de l'article. Oui. Les arbitres ont les boules. Le journal nous raconte la colère des arbitres girondins de pétanque et de jeu provençal, un dérivé de la pétanque.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont ce week-end boycotté une compétition et qui du coup n'a pas pu se tenir pour dénoncer de récentes agressions et insultes dont ils sont victimes, notamment il y a 2 semaines. Un joueur n'a pas admis qu'un arbitre le contraigne à un contrôle d'alcoolémie.
Ah oui, c'est comme ça le dopage dans le milieu de la pétanque.
En partie, peut-être.
En partie. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et maintenant, Eva, si je vous dis puits de science, sens de la pédagogie et universitaire prestigieux.
Oh non, les deux frères Bogdanov. Hein.
Mais non, ce n'est que Fabrice Dalméda, rassurez-vous, pour la rubrique histoire.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui aura lieu à Calais une cérémonie pour le 25e anniversaire de l'inauguration du tunnel sous la Manche. Un tunnel qui a changé l'histoire, Fabrice.
Bah oui, parce que pour la première fois, la Grande-Bretagne était physiquement rattachée au continent européen. Ce 6 mai 1994, voici 25 ans, François Mitterrand, le président de la République française, et Elisabeth II d'Angleterre ont inauguré le tunnel sous la Manche. Deux cérémonies avaient été nécessaires, une en France, au terminal de Coquelles, et une en Angleterre, au terminal de Sheraton. C'est la fin d'un projet qui avait été lancé par Mitterrand lui-même avec la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, en 1984. On avait préféré des entreprises privées pour l'opération autour d'Eurotunnel. On voulait même un actionnariat populaire. Le premier forage a commencé en décembre 1987 et il transforme au fond un rêve en réalité. Le rêve des conquérants comme César ou Bonaparte, celui d'artistes comme le cinéaste Georges Méliès. Un rêve partagé aussi, on l'oublie parfois, par De Gaulle qui avait pensé privilégier un tunnel plutôt qu'un pont.
Et quand, physiquement, le tunnel a-t-il été percé ?
Bah, il a fallu 4 ans de travail de chaque côté pour que le 1er décembre 1990, deux ouvriers, Philippe Cosette, le français, et Graham Fagg, le britannique, donnent les derniers coups de pioche et se retrouvent face à face. Poignée de main historique, échange de drapeaux, une photo immortalise l'instant, le tunnel est percé. Mais il reste à achever les 3 galeries et à installer les voies et les rails. 12 000 personnes ont contribué à ce chantier hors normes. 3 galeries pour 38 km de long, 148 km à forer, le tout par 100 mètres de profondeur sous le niveau de la mer. Il fallait bien tout cela pour concrétiser l'ancrage anglais dans l'Europe.
Oui, mais avec le Brexit, tout ça paraît, loin maintenant.
Et oui, et même un symbole, tiens. Graham Fagg, l'ouvrier anglais, a déclaré voté, le Brexit. Mais il dit que ce n'est pas contradictoire avec le tunnel, parce que cette voie reste essentielle pour le transport de marchandises et de personnes. Il refusait un gouvernement fédéral, c'est différent. Et donc, on peut dire que le tunnel, c'est une des réussites de l'attraction européenne. Il témoigne aussi que les structures sont souvent plus durables que les idées.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, Céline, nous évoquerons un des problèmes, si ce n'est le problème le plus crucial de ce début de 21e siècle.
Les trottinettes, t'es d'accord ?
Non, les trottinettes électriques, c'est en deux. Là, en un, c'est le recul inquiétant de la biodiversité. Ah. Vous voyez, à l'occasion de la remise aujourd'hui d'un rapport de l'ONU, nous recevons Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Une biodiversité, vous le savez, en péril, mais vous n'imaginez pas à quel point.
Excellent réveil sur Europe 1, il est 6h17. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le petit garçon est sain et sauf, retrouvé dans un hôtel de Valence hier soir. Une procédure alerte enlèvement avait été lancée après le rapt d'un enfant de 2 ans en milieu de journée à Marseille. L'auteur de l'enlèvement, qui a des antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue. Les leaders palestiniens à Gaza ont accepté un cessez-le-feu avec Israël cette nuit après une escalade de violence ces 2 derniers jours qui ont fait au moins 27 morts. Hier soir, Donald Trump a assuré Israël du soutien entier des États-Unis. Emmanuel Macron a lui fermement condamné les tirs de Gaza. Enfin, 37 personnes ont survécu à un atterrissage d'urgence dans un aéroport de Moscou. On compte 41 victimes.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 6 mai 2019. L'actualité, c'est aussi le rapport qui sera remis à la mi-journée sur l'état de la biodiversité. Un rapport explosif établi par des experts du monde entier réunis pendant une semaine à Paris et qui appartiennent à la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Une sorte de GIEC de la nature. Bonjour Jean-Pierre Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Vous étiez un des experts de cette plateforme. Alors, 500 000 à 1 million d'espèces seraient menacées de disparition dans les prochaines décennies. Chaque année, on perd 2% de la population d'oiseaux, par exemple, et 40% des espèces d'insectes sont en déclin. Mais au fond, est-ce qu'on a... les chiffres sont vertigineux, mais j'ai envie de démarrer par une question bête et méchante. Sachant qu'en 2019, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, que chaque année dans le monde, des centaines de milliers d'enfants meurent encore de malnutrition, est-ce que c'est vraiment si grave que des espèces disparaissent ?
Oui, c'est grave. C'est grave parce que, d'un côté, les humains dépendent très fortement de la biodiversité, que ce soit pour leur alimentation, même leur habillement, la purification de l'air, de l'eau, plein de choses. Donc on ne s'en rend pas compte au quotidien.
C'est ça qu'il faut rappeler,
c'est ce lien. Mais de l'autre côté, je dirais, il faut aussi penser aux autres, à ceux qui ne sont pas des humains, c'est-à-dire à l'ensemble du monde vivant, qui a besoin aussi d'assurer, si j'ose dire, son propre avenir.
La phrase qu'on prête à Einstein, je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcée, mais quand les abeilles auront disparu, il ne restera à l'humanité que 4 ans à vivre, il pourrait y avoir du vrai là-dedans. Une disparition animale pourrait ensuite manquer à l'écosystème général et faire en sorte que nous disparaissons aussi.
Oui, alors il faut éviter des fois un certain niveau de catastrophisme. C'est vrai, c'est globalement vrai. Et le cas justement des abeilles, des pollinisateurs, est assez typique parce que finalement, si vous n'avez plus ces pollinisateurs-là pour polliniser les arbres fruitiers, etc., vous allez devoir trouver des solutions alternatives et c'est pas du tout évident.
Alors justement, quelles sont les solutions? Vous avez passé une semaine à brainstormer, si j'ose dire, en mauvais français. Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui à opposer à ça?
Oui, je pense que nous avons... Il y a la science, basée sur les connaissances, apporte toute une série d'options pour l'avenir. Et c'est bien, ça a été un peu le centre de cette réunion, de cette plénière de l'IBES, c'est de mettre en avant ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour, quelque part, arriver, un peu comme on a tenté de le faire avec le climat, arriver à une mobilisation des citoyens jusqu'aux États pour diminuer les pressions sur la biodiversité. Pour réduire l'utilisation souvent exagérée d'un certain nombre de ressources, pour sortir peut-être de certaines options d'agriculture intensive basées sur des transports un peu inconsidérés de cargos de soja à travers l'Atlantique, etc., au risque de déforestation importée, comme l'on dit. Donc les solutions, on en connaît. Après, il faut voir quels sont les éléments de courage politique qui permettent de les mettre en place.
C'est ça, parce que j'allais vous dire, c'est pas qu'avec des bons sentiments qu'on va changer, même pas qu'avec une prise de conscience citoyenne, c'est aussi un modèle économique qu'il faut peut-être repenser entièrement, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est beaucoup de travail.
Tout à fait, la plateforme, la plénière a justement abordé ces questions-là dans une partie de ces discussions, et vous verrez tout à l'heure, justement le panel d'options qui est aujourd'hui proposé et qui implique, alors peut-être pas une révolution verte, mais disons des modifications assez significatives des comportements humains pour pouvoir assurer justement ce devenir de la biodiversité.
Eva Rock ?
Pour prendre un cas concret, est-ce qu'on n'utilise pas trop de pesticides en France par exemple ?
Si, je pense qu'on a été un des grands pays utilisateurs de pesticides et comme vous le savez, on en est au deuxième plan de réduction de l'usage des pesticides. C'est pas facile parce que des habitudes ont été prises, des sortes d'habitudes d'assurance tout risque en utilisant les pesticides. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des stocks parce qu'ils savent que demain, il y aura des pesticides qui vont être interdits. C'est assez fou. Je pense que là aussi, il y a tout de même une évolution qui est en cours. Normalement, les communes, etc., ne sont censées ne plus utiliser de pesticides. Les vendeurs, les jardineries, tout cela sont censés aussi bouger sur ce plan-là. Donc on peut penser que ça va bouger. C'est lent, c'est long. Et c'est vrai que le premier plan de lutte, finalement, n'a pas été une réussite.
Mais vous restez optimiste quand même, malgré tout
optimiste,
ça.
Optimiste, oui, parce que... Autant il faut une mobilisation citoyenne, mais il faut aussi que les réglementations suivent et donc que l'État fixe un certain nombre d'objectifs.
Pour revenir sur le déclin des espèces, on accuse souvent les scientifiques d'être pessimistes, mais ce rapport-là montre qu'au contraire, les scientifiques avaient jusqu'à présent presque sous-estimé la réalité du déclin qui s'accélère de manière quasi exponentielle.
Alors, je voudrais pas diminuer l'intérêt de tout ce qui s'est fait la semaine, mais je pense que les scientifiques très impliqués, globalement, connaissent tout ce qui est dans ce rapport. C'est-à-dire que les alertes, nous en avons fourni beaucoup dans les dernières années. Il suffit de se référer à la littérature scientifique avec des choses éventuellement même encore plus catastrophistes, si j'ose dire.
Ah oui, non. Alors, finalement, vous avez bien vu, vous avez bien anticipé les choses. On l'a dit, est-ce que la France est particulièrement un mauvais élève dans ce combat-là ou est-ce qu'on est quand même parmi les meilleurs ? Flattez-moi, mon bon Blaise.
J'aurais du mal à vous répondre sans ambiguïté. Je pense que la France donne un rôle à jouer au niveau international à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'elle nettoie un petit peu son précaré, parce qu'il y a des éléments, je dirais, de... Comment on appelle ça de, de non-cohérence, d'incohérence aussi au niveau français. Hein. Il n'y a qu'à penser qu'il y a à peu près entre 500 000 et 1 million de renards qui sont tués tous les ans. La fameuse chasse à la glu que notre ami Alain Bougrain-Dubourg dénonce. Le déterrage des blaireaux. La puissance des lobbies. Récemment, on a appris que le Conseil national de protection de la nature risquait de perdre une partie de ses prérogatives pour faciliter les aménagements, etc. Donc il y a tout de même un peu du nettoyage à faire.
On veut être pionnier, mais il faut balayer devant notre porte déjà. Merci beaucoup Jean-François Sylvain. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Quant au rapport des experts, il sera remis aujourd'hui à 13h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec le journal du sémillant David Doucan et puis la météo avec une journée globalement ensoleillée mais également très froide, surtout ce matin.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo de ce lundi. Une journée plus calme, Céline, mais bien froide.
Oui, on va sûrement encore battre des records de froid ce matin, comme ce week-end où la masse d'air polaire qui nous vient d'Arctique a bien fait baisser le thermomètre. Des records mensuels parfois vieux de 50 ans ont été battus. Et bien, ce matin, on a encore beaucoup de gelées, des températures négatives comme à Romorantin, moins 1 degré, moins 1 à Colmar également. Il fait 0 à Mulhouse, 2 à Rouen, 3 à Lille, 4 à Bordeaux, 5 à Paris, 10 degrés à Perpignan. Et 11 degrés à Nice. Et puis cet après-midi, on reste sous les valeurs de saison puisque la moyenne ira de 11 à 16 degrés pour la moitié nord et 14 à 21 pour la moitié sud.
Et un autre record a été battu ce week-end dans le sud-est avec cette tempête de Mistral.
Oui, tempête d'un niveau exceptionnel pour la saison avec des records de vent absolu comme à Salon de Provence où on a relevé 138 km à l'heure. Toutes les vigilances ont été levées hier, le vent s'est bien calmé mais reste présent quand même aujourd'hui. Des rafales entre 50 et 70 km à l'heure dans la vallée du Rhône. Un petit peu de tramontane également et puis côté ciel, c'est plutôt calme. Des nuages, surtout près des frontières du Nord ce matin. On pourrait même avoir quelques gouttes cet après-midi. Un ciel qui va se voiler progressivement sur le Nord-Ouest mais partout ailleurs, ce sera des éclaircies. On en profite. Demain, la pluie revient par l'ouest.
Oh mon Dieu. Merci Céline.
Il y en a un qui
Céline.
Est revenu comme la pluie,
et
c'est David Doucan.
Eh oui, merci beaucoup Céline Lacosta.
Europe 1.
5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans snober vos zygomatiques grâce à hiérarchisation de l'info dédiée à la bonne humeur. Vendredi, par exemple, on aurait pu ouvrir par la polémique Castaner, les tensions au Venezuela ou le dossier Julian Assange. Non.
Tu mourras, c'est vrai.
20 ans après, Larousseau est de retour. Alors ça, tu vois, c'est des nouvelles qui font plaisir. Ce qui ne nous a pas empêché de nous mobiliser avec beaucoup de professionnalisme sur les sujets majeurs, notamment pour comprendre ce qui s'était vraiment passé le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Tu te souviens, on s'est dit avec Jérôme, elle est bizarre l'histoire.
C'est ultra choquant cette histoire, parce que le truc lui-même était tellement choquant qu'on était tous sous le choc, et là...
Et donc elle revient avec quoi, Larousseau, en fait?
Et on revient toujours aux choses essentielles. Eux, leurs débats sont toujours de qualité. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec ce matin au programme. Dites 33, les élections européennes, nous sommes à J-20, il y aura 33 listes, pas moins. Et le retour d'Axel de Tarlé qui osera se poser cette question. Emmanuel Macron serait-il devenu anti-entreprise?
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 et c'est aujourd'hui le retour du roi. Sa Majesté Doucan nous revient de vacances, la mine reposée. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Un PDG va rendre des comptes, celui de France Télécom. Une trentaine de suicides entre 2008 et 2009. Le procès commence aujourd'hui. Name and shame, donner les noms pour les couvrir de honte. Je vous parle des grosses boîtes qui traînent les pieds pour payer leurs petits fournisseurs. Des amendes de plus de 500 000 euros sont tombées. Mais pour qui ? Information Europe 1 dans un instant. Le blocage et la violence au Venezuela, trois mois après sa tentative de prise du pouvoir. Oui, on se remet en jambes,
Mathieu.
Soyez un peu plus bienveillant.
Mais c'est vrai, tolérant.
Trois mois après sa tentative de prise du pouvoir, Juan Guaido peine à renverser Nicolas Maduro. Europe 1 est à Caracas. Reportage dans ce journal.
Europe 1.
C'est le procès de la violence en entreprise. À partir d'aujourd'hui, l'ancien PDG de France Télécom est jugé, Didier Lombard, mais aussi l'entreprise, aujourd'hui devenue Orange, sont accusés de harcèlement moral. C'est la première fois qu'un groupe du CAC 40 doit répondre de ce chef d'inculpation dans un contexte de restructuration et de réduction des effectifs. 35 salariés s'étaient suicidés entre 2008 et 2009. Chloé Triomphe.
À 77 ans, Didier Lombard est aujourd'hui retraité, propulsé PDG de France Télécom quand Thierry Breton a quitté son poste pour devenir ministre. Cet ancien ingénieur de formation a toujours réfuté les accusations dont il fait l'objet. Certains salariés, comme Yves Minguy, voudraient pourtant qu'il se remette en question.
Quelqu'un qui
calcule le matin de prendre un bidon d'essence, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelque part, cette personne, on l'a poussée. Alors, quand on en arrive à cette extrémité, quoi, c'est faut se poser les questions, quoi.
Jusqu'ici, devant les tribunaux, seules les entreprises en tant qu'entité ont déjà été jugées pour harcèlement moral. Mais la présence de trois personnes physiques, trois anciens dirigeants et hauts cadres est inédite, comme l'explique Nina Tarouni, docteur en droit spécialisée dans la souffrance au travail.
Cette organisation a quand même été mise en place par des personnes. Et c'est tout là l'intérêt du procès, c'est que finalement, on reconnaisse non seulement la mise en place d'un harcèlement organisationnel, mais aussi la culpabilité de ceux qui l'ont mis en place.
Et en cas de condamnation, la peine encourue est d'un an de prison.
Chloé triomphe pour Europe 1. Et c'est une information de la rédaction d'Europe 1. Pour la première fois, des entreprises écopent d'une amende de plus de 500 000 euros. Elles n'ont pas respecté les délais de paiement pour régler leurs fournisseurs. Jusque-là, l'amende maximale était de 375 000 euros. Mais la loi a changé. Et puis, c'est aussi une nouveauté. Bercy communique volontiers les noms des groupes qui se conduisent mal. En l'occurrence, les ciments Calcia, la branche française d'Eurotunnel ou encore l'assureur MMA. Tous trois sanctionnés. Écoutez la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher.
Le but, c'est d'abord d'atteindre la réputation des entreprises pour qu'elles bougent, et c'est aussi d'atteindre leur portefeuille. Parce que ça, on sait que ça les fait changer d'attitude. Et souvent, ce ne sont pas les dirigeants qui sont responsables, simplement c'est de la négligence au sein de l'entreprise. Et donc, on veut que le sujet du paiement des factures dans les temps soit important pour tout dirigeant d'entreprise, parce qu'on sait qu'une PME sur quatre a des difficultés de trésorerie parce qu'elle est mal payée par ses clients.
La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher avec Emmanuel Dutheil. Un petit garçon de 2 ans a été retrouvé sain et sauf dans un hôtel de Valence dans la Drôme avec l'homme qui l'avait kidnappé quelques heures plus tôt à Marseille. La disparition de l'enfant avait fait l'objet d'une alerte enlèvement diffusée sur tous les médias, procédé qui s'est donc révélé une fois de plus efficace puisque c'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a alerté les autorités. C'est une première, un magasin Ikea en centre-ville. L'enseigne suédoise ouvre aujourd'hui un espace en plein cœur de Paris, dans le quartier de la Madeleine, avec un magasin plus petit et plus proche des consommateurs urbains. Et c'est une tendance, Mathieu. De nombreuses enseignes font ce chemin vers les centres-villes. Aurélien Fleurot.
La France reste un pays toujours très marqué par la culture de l'hypermarché. Mais une fois que le territoire est bien couvert, eh bien les marques ont besoin de passer à une autre étape. Et avec la montée en puissance du commerce en ligne, c'est désormais mais la marchandise qui va au client et non plus l'inverse. Voilà pourquoi ce mouvement se retrouve dans tous les types d'enseignes, explique Yves Marin, spécialiste de la consommation au cabinet Barthel.
IKEA n'est pas le seul dans cette logique-là. Leroy Merlin ouvre des petites surfaces urbaines. Alors c'est vrai dans le bricolage, c'est vrai dans d'autres secteurs économiques aussi, et en particulier dans l'alimentaire, puisque l'un des gros sujets, c'est justement l'ouverture de drive piétons ou de magasins urbains qui soient livrés depuis la périphérie des grandes villes, en particulier de Paris.
Pour ces magasins, le gain est aussi économique. Plus besoin de payer un loyer commercial hors de prix pour un très grand local en plein centre-ville, ce qui permet de proposer des tarifs plus attractifs pour les consommateurs sans pour autant avoir 100% des produits disponibles en stock, mais en proposant de les réserver et ensuite de se faire livrer. Le magasin IKEA de la Madeleine sera par exemple 4 fois plus petit que ceux situés en périphérie. Dernière preuve de cette tendance de fond, Darty vient d'ouvrir à Paris un magasin de seulement 80 mètres carrés.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe. Les images sont particulièrement choquantes. Un avion de la compagnie russe Aeroflot a atterri en catastrophe à l'aéroport de Moscou Cheremetyevo. L'appareil s'est embrasé, 41 personnes sont mortes, 37 passagers ont réussi à fuir la carcasse et ont survécu.
À suivre dans ce journal, Europe 1 est à Caracas. La révolte menée par Juan Guaido patine. Maduro, lui, tient bon. À tout de suite.
Excellent réveil sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Prenons la direction du Venezuela.
Oui, il y a maintenant 3 mois, Juan Guaido s'autoproclamait président par intérim, mais il n'est pas parvenu à s'attacher le soutien de l'armée qui reste fidèle à Maduro, Nicolas Maduro, qui reste donc le maître du pays. Et pendant ce temps-là, la population s'enfonce dans la pauvreté. Reportage de notre envoyé spécial à Caracas, Mathieu Bock.
Assis sur un banc, Carmen Mendoza regarde ses deux fils jouer au foot dans un parc. Son troisième fils, le plus grand, n'est pas là, il est parti vivre au Chili. Au chômage depuis le mois de février, cette mère de famille ne pouvait plus nourrir tous ses enfants. Le changement promis par Juan Guaido, elle l'attend toujours.
Je pense que ça avait très bien commencé, mais tout est encore trop cher. On n'a pas d'argent, on ne peut rien acheter. Les services publics se dégradent de jour en jour.
Un peu plus loin, Oscar termine son footing du dimanche matin. Cet ingénieur, lui aussi, doute désormais. Mais de Guaido.
Je crois que Juan Guaido est en chute libre. Il a été piégé car il est trop jeune. Il n'a pas d'expérience en politique. Il y a un an, personne ne le connaissait dans le pays. Je pense qu'il y a d'autres leaders moins médiatiques, mais plus crédibles pour changer les choses.
Mais pour Andrea, qui a entendu la conversation après 20 ans de chavisme, il faut laisser du temps à Guaido.
Ce que nous sommes en train de vivre, c'est un processus qui va amener à la transition démocratique. Et comme toute transition, ça prend du temps.
Épreuve que Juan Guaido cherche un second souffle, son agenda officiel reste secret pour les jours à venir. Caracas, Mathieu Bock, Europe 1.
Les leaders palestiniens à Gaza ont accepté un cessez-le-feu. Ils viennent d'en faire l'annonce après une médiation égyptienne. Ces deux derniers jours ont été marqués par une escalade de la violence. Les groupes armés de la bande de Gaza ont tiré des roquettes, tuant 4 personnes en Israël. Riposte de Tsahal a coûté la vie de 23 Palestiniens depuis samedi. L'inquiétude au sujet de deux touristes français qui ont disparu au Bénin. Le corps retrouvé dans un parc national est bien celui de leur guide. Information qui renforce la crainte d'un enlèvement.
Europe 1, il est 6h38.
Parlons maintenant, Mathieu, de la Ligue des Champions.
Ah, bonne idée.
Oui, parce qu'elle pourrait radicalement changer de forme d'ici 2024. Une réforme qui inquiète beaucoup de clubs, notamment français. Une réunion se tient demain à Madrid avec les responsables des championnats nationaux de toute l'Europe. Julien Froment.
L'enjeu de cette réunion préparatoire est simple. Les ligues nationales ne veulent pas d'une réforme de la Ligue des Champions prévue horizon 2024. Réforme voulue par les clubs les plus riches, la Juventus Turin, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en France, on craint la naissance d'une Coupe d'Europe fermée qui prendrait le pas sur les compétitions nationales. Le président de Guingamp, Bertrand Desplat, est à la tête du syndicat historique des clubs français, l'UNFP. Il est vent debout contre la réforme.
La nature même de la réforme qui est envisagée, de la Champions League, est en opposition complète à ce qu'on pourrait appeler cette réussite au mérite. S'éloigner de son championnat domestique, c'est faire mourir le football. Et ça, on ne peut pas les laisser faire.
Un avis partagé par la Ligue de football professionnelle. Sa présidente, Nathalie Bois de la Tour, sera d'ailleurs présente à Madrid aujourd'hui pour organiser avec les autres ligues la riposte face à un projet qui pourrait totalement changer la face du football européen dans les années à venir. Ces frondeurs échangeront ensuite sur ce projet très controversé dans 2 jours. À Nyon, en Suisse, avec l'UEFA.
Julien Froment, du service des sports d'Europe 1.
Merci, c'était le premier journal de David Doucan depuis son retour de vacances.
Ouais, et alors, c'est quoi ton problème? T'as une critique à émettre? Non, ça te défrise?
Non, mais après les vacances qu'il ont visiblement bien reposé, hein, j'imagine que bougon comme il est, il ne nous dira pas où il est en vacances. On pourra pas savoir.
Si, je peux le dire, j'étais en Normandie, rien d'extraordinaire.
Hein. Mais enfin, Eva peut nous résumer ça.
Mer, sable fin, transat et mojito.
Ouais, enfin, quoi qu'en Normandie, finalement, peut-être pas. Non, finalement, le gag ne fonctionne pas avec cette réponse sur Gabour. Effectivement, pas de sable fin. Merci beaucoup, on passe tout de suite à la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et alors que nous dit Rénoval, Céline Acosta? Le soleil sera bien présent aujourd'hui.
Bon oui, je pense que Rénoval va être d'accord avec moi.
Certainement.
Et il sera présent quasiment partout, largement sur la moitié sud, avec des nuages pour la moitié nord. On en aura un petit peu plus cet après-midi sur un quart nord-ouest où le ciel va se voiler. Et du nord à l'Alsace, avec là en prime un petit risque d'averse. Pour les températures, on se couvre bien ce matin, n'est-ce pas David Doucan? L'air polaire arrivé ce week-end de l'Arctique est toujours bien présent. Et après le ciel dégagé la nuit, on peut dire que c'est la matinée la plus froide de la semaine. Et ça, même si les autres vont être aussi bien froides. Mais comme la pluie revient dès demain par l'ouest, elles vont regrimper un petit peu au lever du jour. Ce matin, la moyenne va de 1 à 4 degrés, un petit peu plus dans le sud-est. Ça va grimper cet après-midi, mais on va rester sous les normales de saison.
Ça se passe mieux, la météo de Céline
Dacosta? Non, vous trouvez aussi.
Elle a progressé sans vous, c'est ça. Je vous déstabilise un peu, finalement.
Un petit peu, c'est vrai.
Coquinou.
C'est bien de le reconnaître.
Merci, Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, gardez un temps d'avance sur l'actu grâce aux trois fantastiques. Au programme ce matin, les européennes et la jungle, les 33 listes, le président Macron qui serait devenu anti-entreprise et le plateau télé, évidemment, d'Eva Rock.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un PDG va rendre des comptes, celui de France Télécom. 35 suicides entre 2008 et 2009. Le procès de Didier Lombard et de l'entreprise en tant que personne morale commence aujourd'hui. Un petit garçon de 2 ans a été retrouvé sain et sauf dans un hôtel de Valence dans la Drôme avec l'homme qu'il avait kidnappé quelques heures plus tôt à Marseille. La disparition de l'enfant avait fait l'objet d'une alerte enlèvement diffusée sur tous les médias. Procédé qui s'est donc révélé une fois de plus efficace puisque c'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a alerté les autorités. Enfin, les leaders palestiniens à Gaza ont accepté un cessez-le-feu. Ils viennent d'en faire l'annonce après une médiation égyptienne. Ces deux derniers jours ont été marqués par une escalade de la violence. Les groupes armés de la bande de Gaza ont tiré des roquettes, tuant 4 personnes en Israël. La riposte de Tsahal a coûté la vie de 23 Palestiniens depuis samedi.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure a sonné. Les trois fantastiques, c'est évidemment les trois éditorialistes de haut de vol. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Aurélie Herbemont pour la politique qui remplace cette semaine Mickaël Darmon. Alors Aurélie, je préfère vous l'annoncer tout de suite, pas que vous soyez déstabilisée durant votre chronique. Ce n'est pas que Céline Dacosta se contrefout de la politique, elle adore ça, hein. Mais c'est, si je puis dire, sa seule fenêtre d'opportunité.
J'ai envie de faire pipi, je vais y aller pendant Darmon.
Maintenant, elle le chante même pour rendre ça plus sympathique. Mickaël Darmon, on en prend pas courage, parce qu'elle écoute en replay. Hein. Donc, on commence par la politique, n'ayez pas peur. Okay. J-20 avant les européennes, dimanche 26 mai, la France élira ses députés européens. La campagne peut enfin démarrer pour demain, car depuis ce week-end, on connaît le nombre de listes en compétition, 33. Les électeurs auront l'embarras du choix, Aurélie Herbemont.
Ah oui, 33 listes, c'est simple, c'est un record. Un tel éclatement est inédit. Si on prend les européennes de 99, c'est la dernière fois où on avait une circonscription nationale unique, eh bien il n'y avait que 20 listes. Beaucoup de monde veut tenter sa chance pour ce scrutin à la proportionnelle. Alors vous avez les classiques, évidemment, Rassemblement National, En Marche, Républicain, Insoumis, Vert, mais aussi des mouvements plus confidentiels comme le Parti Animaliste ou les Royalistes, sans oublier 3 listes tendances gilets jaunes, dont une avec le chanteur Francis Lalanne. Il y a même des gilets jaunes sur des listes traditionnelles, du côté de Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot. Preuve, s'il en fallait encore une, que ce mouvement de contestation est loin, très loin d'être uniforme. Alors avec un tel émiettement, pas sûr que le Parlement européen voit débarquer beaucoup de députés gilets jaunes. Petit rappel, une liste doit faire 5% des voix pour avoir un élu.
Alors à 3 semaines du scrutin, que disent justement les sondages ?
Alors bien malin, qui peut dire quel sera l'ordre d'arrivée. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude et jouent au yo-yo entre 20 et 24% selon les instituts. En fait, c'est à partir de maintenant que tout va se jouer, même si le scrutin européen ne passionne jamais les foules, on n'attend pas beaucoup plus de 40% de participation. Les Français vont davantage être à l'écoute des uns et des autres pendant ces 3 semaines. C'est pour ça que La République En Marche dégaine le Premier ministre à partir de ce soir. Édouard Philippe qui sera à Caen avec Nathalie Loiseau. Pour les macronistes, l'enjeu c'est d'arriver devant le RN qui savoure de faire tout seul, jeu égal avec les marcheurs alliés au Modem, au parti de centre-droit Agir. Chaque voix contrat pour se hisser en tête, sachant qu'avec 33 listes, eh bien, les voix pourraient se retrouver éparpillées façon puzzle.
Comme disait Audiard. Merci beaucoup Aurélie Herbemont. Axel de Tarlé, on passe à l'économie. Emmanuel Macron, notre président, accusé de mener une politique anti-entreprise. C'est
oui,
nouveau.
Oui, alors c'est Laurent Wauquiez, hein, qui est le président des Républicains, qui passe à l'attaque ce matin dans les Échos. Il affirme « Macron est passé à une politique anti-entreprise ». Alors, je parle sous votre contrôle, Aurélie Herbemont, mais quand même, il y a du changement, parce que jusqu'à présent, quand Laurent Wauquiez attaquait Emmanuel Macron, il lui reprochait de s'en prendre aux ménages, aux retraités, aux classes moyennes qui étaient matraquées, dont on sapait le pouvoir d'achat. Ben là, il y a un discours nouveau qui consiste à attaquer Emmanuel Macron en disant qu'il s'en prend non pas aux ménages, mais aux entreprises. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé les fameuses mesures, les fameuses 17 milliards qui ont été données aux ménages et au détriment des entreprises. Parce que qui va financer en partie ces 17 milliards ? Eh bien, on le sait, ce sont les entreprises. Il y a cette fameuse chasse aux niches fiscales dont bénéficient les entreprises, qui est ouverte. Hein. Hier, Olivia Grégoire de La République En Marche en parlait encore dans le journal du dimanche, cherchant 1,5 milliard de niches en moins pour les entreprises. Ça veut dire 1,5 milliard d'impôts en plus à payer pour les entreprises. Et d'ailleurs, dès le lendemain, le soir même de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait la CPME, donc qui représente les artisans, les petites entreprises, qui justement s'époumonaient contre ces hausses à venir d'impôts et cette chasse aux niches fiscales. Et vous avez Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, qui lui va même plus loin. Il voit là un tournant idéologique dans la politique. Il dit « Depuis 2013, à chaque depuis le, vous savez, le CICE, etc., la politique, c'était on favorise les entreprises pour recréer de l'emploi, pour recréer des richesses dans ce pays et enrichir la France. Eh bien là, pour la première fois, dit-il, on retourne dans une politique de la consommation visant à distribuer du pouvoir d'achat pour que les consommateurs fassent davantage
d'achats.
Mais
vous en pensez quoi, vous, Axel de Tarlet ? Vous pensez que c'est vraiment réfléchi comme ça, comme un changement de modèle, ou vous
non,
pensez qu'il navigue à vue et que donc on
je
essaie
pense
de
que c'est totalement,
satisfaire les uns les autres ?
C'est totalement opportuniste pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Il n'empêche, d'un point de vue factuel, c'est vrai que jusqu'à présent, on favorisait les entreprises. Là, on favorise le pouvoir d'achat des ménages. Le problème, c'est qu'économiquement, ça a peu de sens parce qu'on a déjà un déficit de 60 milliards. Donc, si on injecte davantage de pouvoir d'achat, que va-t-on faire ? Ben, on va acheter des produits importés, donc des écrans plats fabriqués en Chine ou des voitures fabriquées en Allemagne. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un feu de paille. Oui, il y a un petit effet plan de relance, mini plan de relance. Mais pour l'économie, pour le chômage, pour la compétitivité du pays, eh bien, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit.
Enfin, alors, faire la chasse aux niches fiscales, on ne peut pas dire que ce soit...
Puis encore le CICE. Ouais. Pour les entreprises.
Non, alors vous avez raison, on n'a pas complètement démantelé la politique en faveur des entreprises. Il y a encore le CICE, il y a encore l'ISF qui a été maintenu, qui est censé. Mais les niches fiscales, les entreprises disent françaises, pour répondre à votre question, elles disent on est matraqué d'impôts et donc pour survivre, le législateur par moment nous fait des petites bouées là où on peut respirer avec ces niches fiscales. C'est-à-dire qu'au lieu de nous imposer à 80 milliards, on dit alors si vous investissez dans la recherche, vous pouvez déduire ça de votre impôt.
Des petites carottes.
Voilà, des petites carottes, ça nous permet de survivre. Alors si on nous enlève ces petites carottes, bah là, on est vraiment sous l'eau.
Laissez-nous nos petites carottes. Voilà le message d'Axel de Carlet, toujours engagé au micro d'Europe 1 chaque matin. Et Baroque, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Alors écoutez, un ovni et un classique ce soir. L'ovni, c'est proposé par C8. Alors c'est très tard, hein, c'est à 23h50. Le programme s'appelle La Veillée. C'est un concept qui a été créé en 1997 aux États-Unis. Une scène de théâtre, c'est devant un public. Des personnalités ou des anonymes viennent raconter une histoire vraie, une histoire qui leur est arrivée. Histoire du genre de celle que l'on peut raconter autour d'un feu un soir d'été, vous voyez, alors des histoires à faire peur ou à faire sourire. Alors pour cette édition française filmée, donc, vous allez pouvoir entendre notamment le comédien Jonathan Cohen qui raconte son rêve américain qui tourne au cauchemar et c'est hilarant, mais aussi le dessinateur Bala qui revient lui avec émotion sur l'attentat du Bataclan qu'il a vécu. Et puis il y a l'auteur Bernard Werber qui évoque une histoire d'adolescence. Il a 14 ans, il campe avec des copains sur une plage en Corse. En pleine nuit, il décide d'aller chercher de l'eau dans les sanitaires d'un restaurant qui est non loin du campement, de l'eau pour faire cuire des pâtes.
J'arrive dans la salle de bain pour remplir les gourdes et là, vision de film d'horreur, il y a du sang partout, ça a giclé du sang, je marche dans une flaque, il y a du sang. Alors, ça arrive par moments, enfin je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous vous retrouvez dans une salle de bain où il y a du sang partout, je me suis dit, on va quand même remplir les gourdes. Je vais essayer de ne pas mettre de sang dans l'eau pour pas que ça donne un petit goût aux pâtes. Et donc je remplis toutes les gourdes. Et je ressors avec ma lampe de poche, il devait être dans les minuit, lorsque soudain, une voix venant des fourrés me dit « Je vais te tuer ».
Alors, la suite.
Et donc, Bernard Werber a un problème d'alcool, visiblement.
Pas du tout. La suite est à la fois un film d'horreur et un récit d'une drôlerie rare. Je vous laisse découvrir.
Comment ça
évidemment.
Non, vous ne nous laissez rien du tout découvrir. Vous nous dites ce qui est arrivé à Bernard Werber. Non, on veut savoir.
Il
est vivant, mais il y a eu des flaques de sang et il y a une voix qui l'a interpellé.
Il s'est retrouvé face à un homme qui était armé. Je vous le raconte.
Ça, c'est plus que du teaser. C'est perfide. Non, je veux connaître l'histoire.
Il s'est retrouvé face à un homme armé. Et en fait, vous verrez, mais il y a eu une confusion entre deux hommes. Il a été pris pour un autre homme.
Il y avait des flaques de sang.
Non, qui a été blessé, très gravement blessé.
Je pensais que c'était une feel good, genre qu'à la fin, c'était un sanglier qui avait été.
Non, pas du tout. Pas de sanglier, c'était un homme. Non, mais l'histoire est hilarante. Regardez ça. Alors, une fois que je vous ai dit ça, que les histoires sont bien, que les narrateurs sont bien, sur la forme, eh bien, c'est pas ça du tout. C'est raté. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de décor, simplement quelques bruits de nuit en fond sonore. C'est dommage parce que l'idée, elle est vraiment excellente et les intervenants sont remarquables. Redéfinir sur la forme, bonne initiative mais un peu ratée sur la forme. En revanche, rien à revoir pour le film diffusé sur France 5 à 20h55. C'est un classique dans lequel vous pourrez entendre notamment ce dialogue entre deux monstres du cinéma.
Mais quel est le salopard qui vous a fait ça ?
Un jeune, avec un manteau.
Dans mon genre ?
Oui, à votre place, moi je me devinerai.
Mais c'est pas moi, ça peut pas être moi ! J'arrive, j'étais pas là !
J'ai pas dit que c'était vous !
Alors c'est qui ?
Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention.
Ben, vous pourriez ouvrir les yeux dans des cas pareils.
Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix ? Je meurs ! Barrez-vous !
Je peux pas vous laisser comme ça.
Mais si ! J'en ai vu d'autres.
Mais là, vous risquez plus de voir grand-chose.
Oh, c'est juste
un mauvais moment à passer.
Michel Serrault, Gérard Depardieu, mais aussi Bernard Bélier et Jean Carmé. C'est le casting de Buffet froid, évidemment, signé Bertrand Blier. Vous le verrez, l'histoire de trois hommes dans une cité de la Défense avec un commissaire abonné aux bavures, un assassin de femmes et un trentenaire dont le couteau donc a servi à tuer un autre homme. Chaque scène donne naissance à des moments surréalistes. Comédie noire qui brille par ses acteurs et ses dialogues. C'est un chef-d'œuvre à voir à 20h55 sur France 5.
Beaucoup de sang aujourd'hui. Merci beaucoup Eva, merci Axel de Tarlé, Aurélie Herbemont. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart. Axel, un dernier mot pour vos fans. En dehors de l'économie, c'est quoi votre autre passion?
La Guinness.
Ah oui, ça explique pas mal de choses. D'accord.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais je vous invite, chers auditeurs, à rester sur Europe 1, car vous n'allez pas y perdre au change. Ce qui vient est très appétissant, Céline.
Et là, pourquoi? Parce qu'il y a une recette de morue, c'est ça?
Non, mieux, le débrief de la matinale de vendredi avec Pierre de Villeneuve en roue libre qui chante les Bee Gees. Et on fêtera le retour parmi nous de Nikos Aliagas après son petit week-end de 15 jours. Alors, comme dirait Nikos...
Et à très vite.
Bon réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
L'heure du passage de flambeau a sonné, Debout les copains s'achève, mais qui revoilà parmi nous après son week-end de 15 jours? Un pont si long que le patron d'Europe 1 se serait exclamé, c'est le pompon de mai. Bronzé comme Bernard Montiel après un été à Marbella, doré sur la tranche, quelle mine, me suis-je exclamé en le voyant ce matin.
Quel dieu.
C'est exclamé Eva, qui est encore plus faillotte que moi. Oui, le meilleur est à venir et surtout ce matin, le meilleur est revenu. Le débrief des vacances de Nikos Aliagas. Ah. Mon cher Nikos, alors je me suis laissé dire que pour vous, 2 semaines de vacances, c'était comme Nicolas Barré.
C'est court, mais c'est bon, hein.
Alors, je sais votre pudeur, Nikos. Vous n'aimez pas à révéler vos lieux de villégiature, contrairement à moi, qui avouais pourtant mon dispendieux séjour bling-bling dans le Vercors. Vous vous montrez plus mystérieux. Alors, durant votre absence, les spéculations sont allées bon train. Il est à noter aussi que certains, comme Vincent Herouet, n'ont réalisé votre absence que très tard, jeudi dernier, pour être précis.
Est-ce que tu peux l'appeler Herouet? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas écorché son nom.
Où est-ce qu'il est, Nikos?
Il est en Grèce.
Sur l'île de Branlos.
Oui, en l'île de Branlos, on voit là l'esprit taquin de Villeneuve, le joker de Nikos à la présentation de la matinale. Les spécialistes des Cyclades le savent, il n'y a évidemment aucune île baptisée Branlos. Non, soyons sérieux, Nikos a passé son pompon de mai sur l'île volcanique et calcaire de Glandos. Et c'est avec une délectation que je n'hésiterai pas à qualifier de vicieuse que depuis sa piscine à débordement de Glandos, confortablement lové dans une bouée de donuts, il a écouté la matinale de Villeneuve pour voir ce que ça donnait. Il était un peu inquiet, il se disait... Tu vas voir, avec mon bol, c'est pile pendant mon absence que Laurent Cabrol va devenir sérieux et qu'on va comprendre ce qu'il dit.
On ne peut plus coucher grand-mère depuis qu'elle écoute Hubert. Voilà, c'était ça Hubert.
Je suis rassuré. Mais Nikos était encore un peu inquiet. Et si Yanis Mbida, notre spécialiste innovation, avait perfidement profité de ses 2 semaines d'absence pour nous présenter enfin des innovations intéressantes.
Ce matin, vous nous parlez d'un lait nouvelle génération?
Oui, un lait longue conservation, mais qui a exactement les mêmes qualités gustatives et nutritives que le lait frais.
Eh ben, non.
Moi, j'aime pas le lait, je m'en fous.
De ce côté-là aussi, c'était bon. Pourtant, Nikos n'était pas encore tranquille. Et si ce Pierre de Villeneuve réussissait, contrairement à lui, à ne jamais chanter? Car Nikos, on le sait, c'est plus fort que lui. N'importe quoi, elle fait chanter.
Je donne, tu donnes, tout le monde donne.
Donne. C'est le pays joyeux, les enfants heureux. J'irai au bout de mes rêves. C'est une maison bleue.
Bref, il se disait, peut-être que ce Villeneuve va réussir à me voler la vedette sur le plan du sérieux. Eh bien, mon cher Nikos, je suis en mesure de vous rassurer, car Pierre a été très vite contaminé par le virus d'Acosta, qui consiste à vouloir reprendre a cappella les pubs qui passent à l'antenne.
Le meilleur marché, c'est Grand Frère.
Là, je fais les trucs à ta place.
C'est Grand Frère.
Ouais, c'est bien, mais tu vois, c'est... ça t'embarque.
C'est moins
quand
bien
même,
quoi. C'est...
Tu le fais bien quand même.
Ouais,
non,
je le fais bien.
Vraiment.
C'est de manière douce.
C'est Grand Frère. Alors,
moi, je fais un peu les Bee Gees, là.
C'est Grand Frère, je suis piqué.
Ah oui quand même, ah bah mon dieu, c'est encore plus n'importe quoi qu'avec moi, je suis rassuré. Georgios, remets-moi un spritz. C'est comme ça que j'imagine vos vacances.
Georgios,
j'imagine bien.
Eh bien non, je n'étais pas au bord d'une piscine, j'étais avec des chèvres.
C'est vrai? Dans les montagnes grecques?
Ouais, le vrai, le blédard.
Ah ouais?
Et vous m'avez manqué. Et je constate que vous êtes encore fiel et miel.
Bonjour, vous savez.
C'est votre vrai, signature, je suis content de vous retrouver. En tout cas, bonjour. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour
Nikos. Eva Rock.
Bonjour,
je vous souhaite une bonne journée, mon cher
bonne
Mathieu.
Journée, Nikos.
Et à demain.
Bon retour.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.